Merci Seigneur pour ces moments. Combien c'est un privilège quand nous réalisons, je lisais tout à l'heure des témoignages, je ne vais pas appeler ça des témoignages parce que c'est plutôt des récits de ce qui se passe dans certains pays d'Afrique où des gens sont, à cause de leur foi, persécutés, tués même. Des choses horribles qui se passent. Et nous, on a cette grâce de pouvoir nous réunir cet après-midi, tout simplement. Je crois que souvent, on oublie ce privilège-là. Et combien c'est bon de s'en souvenir. Je voudrais qu'on puisse sans tarder ouvrir la parole dans 2 Timothée, chapitre 1er. Ça sera, on va dire que ça sera la suite de ce que j'avais apporté la dernière fois. Vous allez d'ailleurs reconnaître le texte. Le texte où il était question de ranimer le don de Dieu. Cette exhortation que Paul a faite à Timothée, de ranimer le don de Dieu. Et il y a une suite à ce message. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, puisque c'est Paul lui-même qui l'a dit juste après. Et j'ai trouvé tellement intéressant de réaliser que si on veut aller plus loin, si on veut progresser, la Bible est remplie de, je vais appeler ça des clés, de vérités qui nous permettent d'aller plus loin avec le Seigneur. Et autant la dernière fois, on voyait qu'il y avait cette vérité, qu'il y a des moments où on peut passer dans un moment où notre cœur est refroidi et on a besoin d'être ranimé, on a besoin de se rendre compte déjà par un déclic que le Seigneur va permettre de notre incrédulité peut-être ou de notre manque de zèle ou de notre honte de l'Évangile. Mais il y a des moments où le Seigneur nous permet d'aller encore plus loin. Peut-être que notre cœur est déjà ranimé, peut-être que notre cœur est déjà enflammé de ce zèle pour le Seigneur. Mais Paul continue à exhorter Timothée en lui disant cette parole au verset 8, 2 Timothée chapitre 1er, verset 8. « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. » Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon bon dépôt jusqu'à ce jour. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. La parole que je crois qui est la plus importante de ce passage qu'on vient de lire, c'est à la fin du verset 8 où il est dit « Souffre avec moi pour l'Évangile ». Et je crois que cet après-midi, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Je crois que c'est quelque chose qu'on aborde, mais le dire sous cette forme-là, tellement directe, je crois qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Souvent, on présente un Évangile, peut-être qu'on le fait moins à Sainte-Anne, c'est vrai. On essaye, on s'évertue d'apporter la parole du Seigneur dans toute sa globalité. Mais c'est vrai que des fois, on a besoin d'utiliser les mots que la Bible utilise. Et la Bible utilise cette expression qui, moi, m'a interpellé dans mon cœur. Oui, il faut que d'abord qu'on ait le cœur ranimé, l'esprit ranimé, plein de zèle, mais par la suite, si on veut aller plus loin, il faut souffrir pour l'Évangile. Souffrir pour l'Évangile. Et quand on présente cette parole, je sais, moi, c'est ma première réaction, c'est quelque chose une expression qui nous déplaît. Pas quelque chose qui nous fait plaisir. Souffrir pour l'Évangile. Et pourtant, si on veut aller plus loin, il n'y a pas d'autre situation, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il faut souffrir pour l'Évangile. Et tout ce passage nous montre quelque chose, que Paul déjà était quelqu'un qui vivait, et non seulement il exhortait à Timothée, mais c'était quelque chose qui vivait. Quand il était en train d'écrire cette lettre, il était en prison à cause de sa foi, parce qu'il avait travaillé pour le Seigneur, il avait mis tout son zèle, toutes ses connaissances entre les mains du Seigneur pour pouvoir être utile entre ses mains. Et de par cela, il avait rendu témoignage dans toute l'Asie. Et à cause de cette foi, les Juifs étaient jaloux, à cause de son ministère que Dieu faisait grandir, les Juifs étaient jaloux et ils ont monté tout un complot pour qu'il puisse être accusé de toutes sortes de choses et emprisonné Et cet homme se retrouve, à cause de sa foi, empêché de circuler librement. Il se retrouve dans une maison avec un soldat qui était là continuellement, qui le surveillait. Mais quand on lit ce passage, on se rend compte qu'il n'en a pas honte. Il le dit d'ailleurs, hein, à la fin, « j'en ai pas honte de cela. » À cause de cela, à cause de tout ce que je viens de vous raconter, je souffre ces choses, nous dit l'apôtre Paul. Mais je n'en ai pas honte. Et je crois que cet après-midi, il y a un choix à faire entre avoir honte de Jésus ou souffrir pour l'Évangile. Il y a un choix à faire entre choisir la gloire des hommes et choisir la gloire de Dieu. Et cet après-midi, si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, il nous faut passer par cette case obligatoire de souffrir pour l'Évangile. Et vous savez qu'on a ce proverbe bien connu, il faut souffrir pour être beau. On le connaît ce proverbe. Et vous savez que spirituellement, il y a une vérité qui se rapproche. C'est-à-dire que la première chose que je voudrais développer, c'est que spirituellement, pour être sauvé, il faut souffrir. Mais je vais pas vous laisser comme ça de but en blanc parce que on peut mal comprendre cette phrase. Vous êtes d'accord ? Pour être sauvé, il faut souffrir. Je regardais justement des personnes, c'était aux Philippines, je crois, qui, à chaque Pâques, se font crucifier de la même manière que le Seigneur Jésus a été crucifié. Mais donc avec des vrais clous, pas seulement des cordes, mais des clous aux deux mains, aux pieds. Ils se font aussi flageller, ils portent leur croix exactement. Et j'ai été interpellé de voir quelles étaient les raisons pourquoi ils faisaient cela. Et voilà ce qu'ils disaient. De tels sacrifices sont un moyen d'expier leurs péchés, d'obtenir des guérisons miraculeuses pour eux ou pour leur famille, ou simplement pour remercier le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Remercier le Seigneur. Si on lit la parole, on se rend vite compte que toutes ces choses ne servent à rien. Ce n'est pas les souffrances qu'on peut affliger pour recopier ce que Jésus a fait, lui, de manière parfaite. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on va obtenir un miracle ou qu'on va dire merci au Seigneur ou que toutes sortes de choses vont se passer, que Dieu va intervenir. Ce n'est pas parce qu'on va s'auto-flageller que ces choses vont être... Par contre, il y a une souffrance qui est réelle quand un homme choisit d'abandonner sa propre vie pour choisir la voie de Dieu. Il y a une souffrance dans le cœur. Je crois que tous ceux qui sont passés par la repentance, tous ceux qui sont passés par la conviction de péché, tous ceux qui sont passés par ce moment où on est obligé d'avouer à notre Dieu nos transgressions, reconnaissent que ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de, j'allais dire inné, mais si, tous les hommes peuvent le faire, mais ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Il faut choisir, il faut avoir cette volonté de se soumettre. Ça fait mal de reconnaître dans son cœur que l'on est pécheur. Ça fait mal de savoir que toutes les choses qu'on peut faire, même se faire crucifier comme Jésus, toutes ces choses ne servent à rien. Ça fait mal de se rendre compte que toute notre intelligence, tout notre argent, toutes nos capacités qu'on en a sur cette terre ne servent à rien pour notre salut. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait mal à notre orgueil ? Est-ce que notre chair n'est pas là en train de frémir en se disant « mais je ne peux rien faire pour obtenir mon salut ?» Oui, mais dans ce passage, nous avons lu que c'est selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et c'est pour ça que nous pouvons être sauvés, mais qu'il faut souffrir. Pour être sauvés, il faut accepter qu'on ne peut rien faire. Avoir cette souffrance-là, de se dire « c'est que par la grâce de Dieu que je peux être sauvé ». La loi, toute la Bible est remplie de la loi de Dieu, mais il y a quelqu'un qui a dit « la loi me dit à quel point je suis tordu ». La grâce vient et me redresse. Cet après-midi, nous avons besoin de cette grâce de Dieu, que Dieu a mis en réserve, on l'a lu aussi, avant les temps éternels, avant même que le monde soit formé, Dieu avait mis en réserve la grâce de Dieu, Dieu avait déjà pensé, imaginé un plan fabuleux pour que les hommes puissent être acceptés dans la présence de Dieu, pour que les hommes puissent être au bénéfice du salut, mais il faut qu'il y ait cette souffrance. Ça fait mal d'avouer à Dieu mon péché, ça fait mal de simplement se reposer par la foi en Jésus pour être sauvé. Pas sur les œuvres, non à cause des œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Et s'il y a une souffrance qui est là, le Seigneur nous promet qu'il y a un gain aussi. Le Seigneur ne va pas nous demander de souffrir pour rien. Le Seigneur ne va pas nous demander de faire des efforts pour rien obtenir par la suite. Mais s'il nous demande de souffrir cette première souffrance-là qui est celle de comment dire, de se soumettre à l'appel du salut, le Seigneur veut nous apporter quelque chose. Cette chose qu'il veut nous apporter, elle est très claire. Paul l'exprime à sa manière. Au verset 12, il dit « Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. J'ai cru en Jésus-Christ, j'ai cru en son salut. Je sais en qui j'ai cru. J'ai cette foi en Jésus. Et de par cette foi, parce que j'ai accepté de me soumettre à la personne de Jésus-Christ, j'ai accepté de me soumettre à cette vérité qu'il n'y a que la croix, que le sacrifice de Jésus sur la croix qui peut me sauver. » Eh bien, maintenant, j'ai une assurance dans le cœur. J'ai une paix dans le cœur. J'ai une communion avec Dieu qui était impossible jusque-là. J'ai l'espérance d'aller au ciel. Mais il y a une deuxième chose, encore une étape pour aller plus loin avec le Seigneur. Souffrir pour être sauvé, mais souffrir aussi pour marcher dans la sainteté. Relisez avec moi au verset 9. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, donc c'est ce qu'on disait, et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée. L'Évangile nous fait connaître que nous pouvons être sauvés, non pas par nos œuvres, mais par les desseins de Dieu. Dieu, avant la fondation de la terre, avait déjà élaboré ses desseins, et je dirais même plus qu'il avait déjà prévu toute la mesure de grâce dont on a besoin pour rencontrer toutes les épreuves, toutes les difficultés auxquelles on fait face. Aujourd'hui, le 16 décembre, le dimanche 16 décembre, ce soir peut-être quand on va rentrer dans notre chambre, quand on sera dans un moment particulier de difficulté dans notre cœur, Seigneur Jésus aura déjà prévu la grâce qu'il faut pour nous relever. Peut-être que cette semaine on va être anéanti par une nouvelle qui va nous être donnée, Seigneur a déjà prévu la grâce qu'il faut pour nous consoler, pour nous fortifier à l'intérieur. Peut-être qu'on va, je ne sais pas, dans les jours qui vont en suivre, se disputer avec quelqu'un. Seigneur nous a déjà donné la grâce pour pouvoir nous réconcilier, pour pouvoir être rempli d'amour, pour pouvoir faire les démarches, pour qu'on puisse être à nouveau unis avec la personne avec laquelle on se sera disputé. En tout cas, toutes ces choses, le Seigneur les a déjà prévues. Et moi, je crois que c'est vraiment quelque chose d'incroyable, un privilège immense de réaliser que tout ce qu'on peut faire face sur cette terre, le Seigneur Jésus a déjà tout fait. Il a dit sur la croix. Et nous qui sommes nés le siècle dernier, je vais dire ça comme ça, il y a beaucoup dans cette salle normalement qui sont nés le siècle dernier. On est quand même né à une époque où Jésus, ça faisait longtemps qu'il était mort. Et ça faisait longtemps qu'il était ressuscité. Vous comprenez? Le moyen par lequel nous pouvions être sauvés, il était déjà venu depuis très longtemps. Et il était déjà remonté au ciel depuis très longtemps. Et mais Dieu, dans son amour et sa grâce infinie, a permis qu'il y ait une circonstance, une personne qui vienne nous donner une parole ou nous distribuer un évangile ou des parents qui soient dans la piété, qui nous apprennent à connaître le Seigneur dès notre jeune âge, ça a été mon cas. Et j'ai pu vivre des expériences comme ça et je sais que c'est Dieu qui tirait les ficelles par derrière, qui faisait en sorte que son plan s'accomplisse. Mais il a fallu qu'à un moment donné, moi je me soumette, que je soumette ma volonté, que je soumette mon orgueil qui ne voulait pas de ce Dieu-là qui faisait grâce. Il fallait que je le soumette au Seigneur. Et maintenant, l'invitation, c'est un appel à la sainteté. Il nous a sauvés, nous a appelés par une vocation sainte. Dieu fait retentir dans ces instants, surtout dans les jours de les derniers temps dans lesquels nous sommes, il fait retentir cet appel à la sainteté afin que nous puissions marcher de progrès en progrès. Il a dit d'ailleurs, vous serez saints car je suis saint. Et je lisais ce passage, c'est vrai, avec l'église de Mazamé ce matin, qui se trouve dans Exode. Exode, chapitre 15. Un passage qui est un extrait du chant que les Israélites ont chanté quand ils ont passé la mer Rouge, que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a ouvert la mer en deux, le peuple d'Israël a pu passer, et quand les Égyptiens qui les poursuivaient se sont engouffrés dans la brèche, Dieu a refermé la mer sur eux. Et forcément, le peuple d'Israël a chanté des louanges incroyables. Exode chapitre 15, verset 11, voilà un de ces extraits. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louanges, opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges. » Tu le diriges où? Vers la demeure de ta sainteté. On a un Dieu qui est magnifique en sainteté, mais qui désire, à cause de cette sainteté qui fait partie de sa nature, qui désire nous amener, nous diriger dans le lieu de la sainteté, qui désire nous conduire dans cette marche de tous les jours où nous sommes, où nous marchons justement dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la consécration au Seigneur, afin d'être ces vases entre ses mains, utiles, propres à toute bonne œuvre, et qui peuvent justement servir à évangéliser ce monde. Le Seigneur nous appelle cet après-midi à la sainteté. Le Seigneur nous appelle à souffrir pour marcher dans la sainteté. Et vous reconnaissez avec moi que choisir tous les jours de marcher dans la sainteté, ça demande un sacrifice. Ça a du prix. Ça coûte quelque chose. Il faut faire des efforts. Notre nature, elle fait tout l'inverse. Le monde qui nous entoure est totalement opposé à cela. L'ennemi de nos âmes, c'est bien sûr pas du tout son but, mais c'est le but du Seigneur de nous diriger dans la sainteté. Et est-ce que nous avons cette soif? Est-ce que nous entendons cet après-midi l'appel du Seigneur, cette sainte vocation qu'il fait résonner dans les cœurs? Vous serez saints car je suis saint. Est-ce que nous entendons et nous choisissons de marcher dans cette sainteté-là? Il y avait quelqu'un qui, dans une maison, voulait se débarrasser des mouches. Ça arrive en été qu'il y ait beaucoup de mouches dans les maisons. Et ce que cette personne a fait, c'est que d'abord, elle a installé des moustiquaires à toutes les fenêtres. Et puis, ça, c'était le premier plan. Et deuxième temps, elle a acheté une tapette. C'est-à-dire que la mouche, si elle arrivait, malgré les moustiquaires, à pénétrer dans la maison, on lui réglait son compte un peu de temps par la suite. Et je voudrais transposer cette image au point de vue spirituel. Le Seigneur Jésus, par sa mort, nous a offert le salut et nous a permis de purifier nos vies et de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est le premier temps, le Jésus qui est le Sauveur. Mais maintenant, Jésus veut être le Seigneur, on le dit souvent, et il nous donne, par la foi, cette capacité de renoncer à tout le péché qui voudrait entrer et qui voudrait reprendre la place qu'il avait auparavant. Et le Seigneur nous dit, mais laisse-moi faire, laisse-moi dominer dans ta vie, laisse-moi juger le péché, laisse-moi employer la manière forte pour que ce péché s'en aille. Et je crois que souvent, et je crois que même toujours, on a besoin d'avoir plus d'ardeur dans notre chasse au péché que dans la chasse aux mouches. Parce que le péché est beaucoup plus dangereux. Vous serez d'accord avec moi. Peut-être on ne s'en rend pas compte. Peut-être pour nous, le péché, c'est justement oh, une mouche, une de plus ou de moins, qu'est-ce que c'est? Mais quand on est infesté de ces choses et quand on sait ce que le péché amène dans le cœur de l'homme, moi je repensais à ce texte dans Éphésiens où il raconte tout ce qui est arrivé quand les Éphésiens marchaient encore selon leurs propres pensées. Éphésiens chapitre 2, verset 1er nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » On se rend compte que quand on marche dans le péché, dans nos offenses, eh bien, on est sans s'en rendre compte sous la domination du diable. On est sans s'en rendre compte des fils de la rébellion, des personnes qui commencent à se rebeller pour beaucoup de choses. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et ça, c'est toutes les fois où quelqu'un se laisse dominer par le péché. Quelqu'un oublie que le péché est quelque chose de dangereux, mais le Seigneur nous appelle cet après-midi. Si on lit la suite, on se rend compte qu'il y a une bonne nouvelle, c'est par la grâce que l'on est sauvé. Cet après-midi, le Seigneur nous appelle à marcher dans la sainteté, à décider, à choisir que toutes les fois où le péché se présente dans notre vie, je renonce à moi-même. Je souffre, ça fait mal de renoncer à vouloir diriger notre vie par notre propre volonté. Ça fait mal de vouloir laisser la volonté du Seigneur s'accomplir dans notre vie. Des fois, ça va bien, ça va dans le même sens, mais souvent, ça ne va pas dans le même sens. Souvent, notre volonté, elle est l'opposé de ce que le Seigneur nous demande. Mais il y a toujours un gain. Il y a toujours quelque chose qu'on peut obtenir. Une bénédiction, une richesse spirituelle qui est accessible simplement parce qu'on accepte de dépendre de la volonté de Dieu. Dieu nous demande simplement notre obéissance. Le gain, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. » J'ai cette conviction dans mon cœur que le Seigneur va m'aider à rester pur, va m'aider à rester saint, va m'aider à marcher dans la sainteté, parce que il m'a donné sa puissance qui habite en moi. Il va me permettre de tout ce bon dépôt qu'il a déposé dans mon cœur depuis tant et tant d'années, il va me permettre de le garder. Et souvent, on me dit, quand on demande des nouvelles, vous savez, aux personnes, on demande alors comment ça va. Puis certaines personnes disent, j'ai des hauts et j'ai des bas. Et des fois, ils ont l'impression que c'est quelque chose de mauvais, mais rassurez-vous, tout le monde a des hauts et des bas. La seule chose qui est déterminante quand on a des hauts et des bas, c'est que les hauts et les bas nous conduisent toujours de plus en plus haut. Il y a un dépôt qui repose et qui fait qu'à chaque fois, on progresse. Si on a des hauts et des bas, mais que jamais on progresse, on va vers le haut, alors il faut s'inquiéter. Alors il faut dire, Seigneur, ranime mon esprit, permets-moi de réaliser vraiment que tu es le Dieu Tout-Puissant, mais je veux progresser dans ma vie spirituelle. Est-ce que la Bible ne nous appelle pas à croître dans la grâce? Est-ce que la Bible ne nous appelle pas à ce que notre amour augmente de plus en plus? Alors je crois qu'il y a une progression qu'on doit avoir. Je crois que chacun d'entre nous, nous devons être capables de regarder le temps qui passe et de dire est-ce que j'ai progressé ou est-ce que j'ai pas progressé. D'avoir ce constat dans notre cœur et de le faire sérieusement. Moi, je vous partage ce que je fais chaque année, mais chaque année, je m'examine. On s'examine quand on prend la Sainte-Seine. Mais est-ce que c'est pas bon de s'examiner aussi chaque année et de dire est-ce que j'ai fait des progrès avec le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai appris avec le Seigneur cette année? Dans quel domaine j'ai grandi? Quel domaine j'ai failli et j'ai besoin de faire des progrès encore? On a besoin d'avoir ce cœur qui se tend vers le Seigneur. Est-ce que le Seigneur, il n'est pas parfait? Il n'est pas tellement grand qu'on a beaucoup de marge pour pouvoir accéder, être à son image, formé à l'image de Christ? Je crois qu'on a vraiment beaucoup de marge. Je crois que ça demande même toute l'éternité pour pouvoir comprendre combien le Seigneur est grand. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pendant toute l'éternité. On va faire simplement que le contempler et se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas compris ici-bas. Mais parce qu'on a eu ce cœur qui a choisi de marcher dans la sainteté, le Seigneur a pu nous prendre avec lui et nous faire partager toutes ces choses qu'il voulait nous faire partager sur cette terre. Souffrir pour marcher dans la sainteté. Et le troisième point, c'est souffrir simplement pour suivre le Seigneur. Parce que Jésus a connu la souffrance et il a choisi de souffrir volontairement. Il nous a montré la voie, il nous a montré le chemin que nous devions prendre. Et nous pourrions lire pour cela 2 Timothée, revenir à ce passage, au verset 10. Alors c'est la grâce qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Jésus a choisi de souffrir la mort, de souffrir toutes les souffrances qu'il a vécues sur cette terre, dans un but bien précis, afin de détruire la mort, et afin de mettre en évidence, de mettre à la lumière que c'était possible d'obtenir la vie éternelle, d'obtenir l'immortalité spirituelle, bien sûr, c'est pas question d'immortalité physique, les questions de l'immortalité de notre esprit. Mais cette chose n'a été possible que parce que Jésus a accepté de souffrir. S'il avait renoncé à souffrir, ça n'aurait pas été possible. Et je vous dis cela simplement pour vous montrer que si nous ne voulons pas souffrir, si nous choisissons un évangile à l'eau de rose, nous ne pourrons pas faire de progrès. La vie de Christ s'est manifestée dès l'instant où il a choisi de souffrir et il a souffert effectivement. Il a détruit la mort, mais il a mis en lumière la vie aussi. Et regardez ce qu'il a dit, le Seigneur Jésus a dit lui-même dans Marc. Marc chapitre 8, il explique justement toutes ces choses. Marc chapitre 8, verset 31. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. On se rend compte avec cette parole, qui était donnée bien avant que Jésus aille sur la croix, que le Seigneur Jésus avait une vision claire de ce qu'il attendait. Il fallait, et j'insiste sur ce mot, il fallait que le Fils de l'homme souffrit. C'était pas une option. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit. Et ça c'est un chemin obligé pour Jésus, mais ça nous parle à nous aussi qu'il faut que nous acceptions de souffrir pour l'Évangile. Souffrir de la bonne manière, bien sûr, comme on le disait tout à l'heure. Pas souffrir n'importe comment. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai pas versé de larmes quand je me suis repenti, que j'ai pas assez souffert dans mon cœur, que je suis pas sauvé. Vous comprenez que c'est pas cette souffrance-là. mais ce choix de se soumettre au Seigneur. Et regardez la suite, verset 32, il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Oui, c'est une pensée humaine, de croire que l'évangile sans la souffrance est possible. Oui, c'est une pensée humaine de croire que si on accepte le Seigneur, tout va marcher comme sur des roulettes, tout va aller bien. Alors oui, je le disais dans ma prière, dans les temps de difficulté ou dans les temps de bénédiction, le Seigneur est là. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il y a des temps de difficulté. Vous lisez le livre de Job, vous comprenez les temps de difficulté auxquels le Seigneur peut nous soumettre simplement pour éprouver notre foi. D'ailleurs, il y a un passage où il est question que l'épreuve de notre foi, c'est comparé à une fournaise ardente. Et est-ce qu'une fournaise ardente, c'est quelque chose qu'on a envie d'aller à l'intérieur? C'est quelque chose qui nous fait peur, qui nous repousse. Mais le Seigneur nous dit, souffre pour l'évangile. Pierre, il est là, et c'est des fois dans notre cœur, on a comme un Pierre qui se réveille et qui dit, non, non, Seigneur, moi, je veux pas de cet évangile où il y a la souffrance. J'en ai assez que mes collègues se moquent de moi. J'en ai assez qu'il y ait telle ou telle chose qui se passe dans mon collège ou dans mon lycée à cause de ma foi. Seigneur, je veux faire comme tout le monde, je veux passer inaperçu. Mais le Seigneur Jésus voudrait qu'on fasse un progrès. Quand on acceptera de comprendre qu'on souffre pour l'évangile, ça entraîne une bénédiction. Alors, on aura cette paix incroyable que le Seigneur veut nous donner. Alors, on pourra faire des progrès encore. Regardez la suite. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Souvent, on veut suivre le Seigneur, mais on oublie que, avant de suivre le Seigneur, il y a toutes sortes d'étapes. Si quelqu'un veut venir après moi, d'accord, ça c'est très bien d'avoir ce cœur, qu'il renonce à lui-même, demande la souffrance, qu'il se charge de sa croix, ça demande aussi de la souffrance. Et après, à ce moment-là, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, remarquez ce qu'il est dit, la bonne nouvelle ou l'évangile, la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Il est question de la honte, encore une fois. Et spirituellement, il y a quelque chose qui se produit, il y a une conséquence éternelle à l'attitude, au choix qu'on va avoir dans notre cœur. Ce choix entre avoir honte de l'évangile, avoir honte du témoignage de Jésus et souffrir pour Christ. Mais par contre, tiens, on doit faire un choix. Mais de ce choix-là, à cause de ce choix, il y aura une circonstance, une conséquence plutôt, éternelle. Si j'ai honte du Seigneur Jésus sur cette terre, automatiquement, c'est Jésus dans le ciel, quand je serai devant lui, qui aura honte de moi. Voilà pourquoi il ne faut pas rester dans cet état. Alors, bien sûr, peut-être ça va nous arranger dans certaines situations, on va se dire, ah, mais comme ça, je n'ai pas été embêté, comme ça, je n'ai pas été persécuté. Encore qu'en France, comme je le disais, on n'a pas de grandes persécutions, même si c'est des persécutions plutôt morales, mais des fois, c'est des choses qui nous pèsent tellement qu'on ne veut plus les subir, parce qu'on n'a pas cette vision du spirituel. Dès l'instant où j'ai honte du Seigneur, le Seigneur, il a honte de moi. Et quand je réalise ces choses, je veux plutôt être dans l'autre catégorie, souffrir pour l'évangile, tout simplement. Choisir de souffrir pour l'évangile. Le Seigneur Jésus a fait tellement de promesses, tellement d'endroits, et les épîtres sont remplies de ces exhortations à comprendre que toutes les fois où on se moque de nous, où on nous maudit à cause du nom de Jésus-Christ, le Seigneur y transforme ça en une bénédiction. Mais il faut qu'on le comprenne. C'est sûr que quand les gens commencent à rigoler à cause de notre foi, et que nous on est là au milieu tout penaud, On peut être mal à l'aise, on peut avoir toutes sortes de sentiments dans notre cœur. Mais si on a cette claire perception de comprendre que pendant que les gens se moquent de nous, Dieu est en train de nous bénir, Dieu est en train de mettre en réserve des bénédictions, si on tient bon, si on n'a pas honte de lui, si on accepte de souffrir pour l'évangile, alors laissez-moi vous dire que les rires des uns et des autres, ça ne va rien vous faire. Comment a réagi le Seigneur Jésus quand les gens se sont moqués de lui? D'ailleurs, est-ce que d'abord, il n'y a pas eu des gens qui se sont moqués du Seigneur? Est-ce que lui, c'était pas la seule personne au monde qui méritait pas une seule moquerie? Lui qui était le Fils de Dieu, lui qui était Dieu fait homme, il a accepté volontairement de subir les moqueries des personnes qui n'étaient que ses créatures finalement. Vous vous rendez compte? Mais il a fait et il n'a pas ouvert la bouche, il a rien dit. Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il souffre ces choses pour nous apporter la vie à chacun d'entre nous. Et si nous voulons, nous, obtenir cette vie de Dieu, que le Seigneur veut répandre tellement, qu'il désire donner avec abondance, il nous faut passer par la case « souffrir pour l'Évangile ». Et je voudrais finir avec ce témoignage. C'était un homme qui avait à cœur d'évangéliser le Tibet. Vous savez qu'au Tibet, il y a la religion, le bouddhisme, avec les chefs spirituels, les lamas. Et cet homme, il prêchait l'évangile de tout son cœur dans les rues et il le faisait avec tellement de force qu'un jour, son discours, tout ce qu'il disait avec ferveur, ça dérangeait les autorités. Et il faut savoir que même si, en apparence, le bouddhisme, ça a l'air d'être une religion de paix, dans le pays du Tibet en particulier, il y avait une persécution incroyable quand quelqu'un s'autorisait à apporter notre religion. Parce que pour eux, c'était au Tibet, tout le monde devait être bouddhiste. Et dès qu'on parlait d'autre chose, et ils étaient capables de tuer des personnes. Alors bien sûr, à cause de leur religion, ils avaient ce commandement de ne pas tuer eux-mêmes quelqu'un. Par contre, ils faisaient quelque chose, ce qu'ils ont fait à cet homme, ils avaient un grand puits où ils jetaient les personnes, puits très profond, avec dessus une porte cadenassée et avec une muraille d'enceinte tout autour. Et il jetait donc les personnes. Et cet homme s'est retrouvé au fin fond de ce puits. Il a senti qu'il est tombé sur quelque chose de mou. Il s'est rendu compte que c'était des cadavres en décomposition qui étaient là. Les gens qui avaient précédé, qui avaient fait les mêmes choses que lui, qui s'étaient retrouvés là. Et pour être bien sûr qu'il n'aurait aucune chance de pouvoir remonter à cet homme, ils lui ont cassé le bras. Cassé le bras et l'ont balancé. Ils ont refermé tout, le cadenas. Là, le mur d'enceinte, il était aussi fermé à clé. C'était le Dalai Lama en personne. Pas le Dalai Lama, le Lama de la ville. Parce que le Dalai Lama, c'est le grand chef. Voilà, c'est pour préciser. C'était le Lama de la ville qui avait lui-même la clé dans la poche. Et puis, pendant 3 jours, cet homme est resté là. 3 jours. Et alors que au début, il sentait son bras qui le faisait souffrir, il sentait l'odeur nauséabonde, vous imaginez la situation. Au bout de quelques minutes, il y a le Seigneur Jésus qui est venu dans ce lieu. Et il a été capable de dire, cet homme, il avait déjà dit à d'autres reprises, mais il a été capable de dire, j'ai connu le ciel sur la terre. Pourtant, c'était le pire endroit qu'on peut connaître, je crois, ici-bas, mais il a connu la présence de Dieu de manière tellement intense qu'il ne se rendait plus compte où il était. Il baignait dans la paix de Dieu, il baignait dans cette douceur. Et puis à un moment donné, au bout de 2 ou 3 jours, il entend du bruit, quelqu'un qui est en train d'ouvrir les cadenas, quelqu'un qui lance une corde, et alors il s'approche, il agrippe la corde, et puis doucement on est en train de le retirer. Il n'arrive pas bien à discerner, parce que ses yeux étaient tellement encore engourdis par les ténèbres, il n'arrive pas bien à discerner qui c'était, et la personne lui touche le bras comme ça, et puis lui montre d'aller. Et alors, lui s'en va, tout est ouvert, il est OK. Et puis, la personne referme tout derrière elle. Et puis, le lendemain, une fois qu'il est remis de ses émotions, il annonce l'évangile à nouveau. Il va dans les rues et il dit, le Seigneur est vivant, il est tout puissant, il est capable de vous sauver, vous êtes des pécheurs, mais repentez-vous, le Seigneur vous fait grâce. Et les gens qui sont là se souviennent, parce qu'il y avait une foule tout entière qui l'avait amené là-bas. Ils se souviennent que c'était le même bonhomme. Et ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'il est là. Et alors qu'ils sont là dans cette ferveur, les cœurs sont touchés, etc., à tel point qu'il y a quelqu'un qui va prévenir le chef religieux et qui lui dit « Mais qui c'est qui a libéré cet homme ?» Parce qu'il est à nouveau parmi nous. Et alors le chef religieux, il va au puits, il voit que le mur d'enceinte, il est fermé à clé, la porte est fermée, il voit que le cadenas, il est encore présent, il voit que c'est lui qui a la clé dans sa poche. Et alors il va trouver l'homme, il dit « Va-t'en, parce qu'on se rend compte que ton Dieu, il est tout puissant. On se rend compte que ton Dieu, il t'a protégé et on ne veut pas qu'il y ait sa malédiction sur nos vies. Alors, change de village, va voir à côté. Et cette personne s'est rendue compte de la puissance de Dieu. Mais nous, souvent, quand on lit des histoires comme ça, on se dit, ah, mais qu'est-ce que j'aimerais vivre des expériences pareilles? Qu'est-ce que j'aimerais? Parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais souvenez-vous qu'avant qu'il puisse connaître le ciel sur la terre, il a fallu qu'il souffre. Il a fallu qu'il tombe dans cette fosse remplie de cadavres. Il a fallu qu'il aille, parce qu'il n'avait pas honte de l'évangile, prêcher dans un endroit hostile. Il a fallu toutes ces choses. Il a fallu qu'il accepte simplement de souffrir pour l'évangile. Alors est-ce que cet après-midi, je sais la réponse que vous allez me donner à cette question, est-ce que cet après-midi nous voulons vivre des expériences glorieuses avec le Seigneur? Alors acceptons de marcher sur le chemin de la souffrance. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait et heureusement qu'il l'a fait parce qu'il nous a montré le chemin. Il l'a fait de la manière parfaite. Et c'est vrai qu'on est tellement nous limités, on est tellement encore empreints de cette nature pécheresse, mais le Seigneur, il est là. Il a dit, je vous dirigerai, je vous conduirai vers le lieu de la sainteté. Alors cet après-midi, acceptons de souffrir, acceptons de mettre des efforts, acceptons de mettre le prix qu'il faut pour suivre le Seigneur, pour marcher dans la sainteté, pour être sauvé, pour suivre le Seigneur Jésus. Acceptons de faire toutes ces choses afin que le Seigneur puisse faire son œuvre dans chacune de nos vies et par chacune de nos vies aussi. Vous voulez ces choses, frères et sœurs? Alors que nous puissions prier le Seigneur de tout notre cœur. Merci Éternel. Merci parce que tu nous as laissé ta parole qui est ce guide précieux pour nous montrer comment faire des progrès dans notre vie. Seigneur, combien nous réalisons que nous sommes bien faibles, combien nous réalisons, Seigneur, que souvent nous ne combattons pas le péché comme tu nous demandes de le faire. Combien nous réalisons que souvent nous voulons de cet évangile qui nous bénit, mais pas qui nous coûte. Seigneur, aide-nous à prendre cet après-midi ce choix, ce bon choix, à choisir entre souffrir pour ton évangile et ne pas avoir de la honte, Seigneur. Oui, nous ne voulons pas avoir honte dans ton évangile. Nous ne voulons pas avoir honte de cette bonne nouvelle, parce qu'elle est tellement bonne, Seigneur. Elle est tellement glorieuse. Elle nous apporte tellement, Seigneur. Elle nous montre combien tu es grand, combien tu es puissant. Elle nous permet d'accéder à ta présence, Seigneur, quand nous la croyons avec foi. Oui, nous voulons faire ces choses, comme tu l'as dit à Timothée, Seigneur. Nous voulons retenir les paroles dans l'amour et dans la foi. Les paroles de Jésus, Seigneur, dans notre cœur. Nous voulons garder le bon dépôt. Cet après-midi encore, par ton esprit, tu déposes quelque chose dans nos cœurs. Par ton esprit, Seigneur, tu fais ton œuvre dans nous afin que nous puissions progresser encore. Mais tu nous aides aussi à prendre ces décisions pour que cette semaine tout entière et dans les temps à venir, nous puissions marcher dans la sainteté. Merci de nous aider, Seigneur. Merci de nous donner la force. Oui, Seigneur, tu as parlé à l'apôtre Paul, tu lui as montré combien il devait souffrir pour ton nom quand tu l'as appelé. Seigneur, montre-nous combien nous devons souffrir pour ton nom. Mais Seigneur, tu nous as aussi fait cette promesse que tu serais avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dans les difficultés, dans les moments de souffrance, tu serais là. Tu nous aiderais à les traverser. Tu as prévu toutes les grâces dont nous avons besoin pour toutes les épreuves que nous confronterons, Seigneur. Alors, nous voulons te remercier parce que tu prends soin de nous. Merci, Éternel, parce que c'est quand on est faible que l'on est fort. Merci parce que nous voulons dire comme l'apôtre Paul, nous nous plaisons dans nos faiblesses, nous nous plaisons dans les difficultés, dans les calamités, dans les épreuves. Nous nous plaisons dans ces choses à cause de ton nom. Parce que tu es avec nous, Seigneur. Merci de bénir chacun de mes frères et sœurs cet après-midi. Tu vois peut-être les âmes qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas accepté de souffrir pour l'Évangile au point d'être sauvées, Seigneur. Tu les bénis dans ces moments. Tu leur montres que ce choix qu'ils doivent faire, Seigneur, l'inclination de leur cœur, va leur apporter cette assurance, cette paix éternelle, dès l'instant où ils avoueront leur transgression devant toi, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui agit encore cet après-midi. Amen.